Salut, bienvenue sur Be My Fetish, le podcast qui s'intéresse aux paraphilies, c'est-à-dire à différentes pratiques sexuelles dites entre guillemets inhabituelles ou entre guillemets non classiques. Ici, on va explorer certaines paraphilies légales, les pratiques sexuelles alternatives, comme le fétichisme, le BDSM, afin que le fait d'en parler et de les réaliser ne soit plus ni une honte, ni un tabou, et de déconstruire les stéréotypes. Avertissement. Cet épisode s'intéresse à la soumission et à certaines pratiques comme l'étranglement ou le choking, ainsi que le tirage de cheveux. Pour ce nouvel épisode, je reçois Edwige, créatrice des comptes Instagram Wiku et Wicker, qui va nous parler de son travail, de ses projets, ainsi que de son kink pour la soumission. Elle nous expliquera notamment ce que cette pratique représente pour elle, le recul qu'elle prend par rapport à sa sexualité pour ne pas se mettre de pression ainsi qu'à son partenaire. Edwige évoquera aussi son envie d'explorer le shibari, et j'en profiterai pour lui donner quelques conseils. Cet épisode se terminera avec les conseils d'Edwige pour les personnes qui souhaiteraient découvrir la soumission. Bonne écoute! Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, je m'appelle Edwige, j'ai 37 ans, bientôt 38. Je suis une femme cisgenre hétérosexuelle. Mm-hmm. Je tiens le compte Wiku sur Instagram, dans lequel je fais de l'éducation sexuelle, mais aussi Wicker, qui est un compte de petites annonces amoureuses. Et je suis anciennement, mais j'aime pas dire ça, donc je veux dire, je suis infirmière psy.
Ok, super. Est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu plus de Wiku et de Wicker? Comment est-ce que ces comptes Instagram sont apparus dans ta vie? Comment est-ce que tu les as créés?
Alors le premier, Wiku, c'était concrètement suite à une soirée un peu arrosée avec mon meilleur ami qui me disait « Tu devrais faire de la radio libre pour parler de cul parce que je... » Je connais pas quelqu'un qui parle aussi bien de cul que toi, c'est hyper pédagogique, c'est hyper abordable, en fait on se sent tranquille de parler de sexe avec toi, et je pense que ça pourrait te plaire comme créneau, et je lui ai dit mais alors, jamais de la vie, je vais pas aller toquer à une, à une radio en disant bonjour je m'appelle Edwige, il paraît que je parle bien de cul, enfin, ça se passe pas comme ça, et je lui ai dit mais par contre je connais pas vraiment Instagram, mais je crois que... il y a des possibilités de faire des petites choses assez intéressantes sur, à ce niveau-là. Et en fait, dans la soirée, il m'a dit « Ok, on y va, banco !» Crée ton compte Instagram,
genre direct.
Et je dis « Bah non, mais ça va pas la tête et tout. » Il me dit « Bah si, bah alors ok, si on te trouve un nom cool, tu le crées. » Et là, c'était parti. On a griffonné, je pense, pendant 2 heures, des petits noms de trucs de machin. Et là, et on ne sait toujours pas aujourd'hui, on en reparle, lequel de nous deux a trouvé Wikipédia. Et franchement, j'avoue, ça m'a bien plu. Je trouvais ça hyper pertinent, drôle, voilà, qui donnait un peu le ton tout de suite de ce qu'allait se passer. Moi, j'ai fait un master pour être prof. Du coup, la pédagogie, ça me parle beaucoup. Et donc, voilà, je me suis dit, c'est vrai que ce nom est un petit peu cool. Et dans la foulée, le compte était créé ce soir-là. Voilà, il était vierge, il n'y avait rien dessus, mais... on a fait un espèce de petit logo à la main, tout moche, et on l'a mis, et ça y est, le compte était créé. Et puis j'ai mis quelques jours à me lancer, parce qu'en fait, je connaissais rien aux réseaux sociaux, donc il fallait que j'appréhende un petit peu l'outil. Et puis c'est difficile de se sentir légitime d'arriver sur un réseau social comme ça, où il y a déjà des comptes Instagram présents qui font très bien le job. On se demande ce qu'on va apporter de plus, est-ce qu'on est légitime ou pas.
Bien sûr.
Et donc, au début, je voulais faire du référencement, en fait. Je m'étais dit, je vais faire comme un espèce de média du cul. Je vais prendre un petit peu tout ce que je trouve sur les comptes des collègues, et puis les créditer et mettre en avant un peu les informations autour de la sexualité. Parce que j'ai toujours ce problème de légitimité. Donc, comme ça, ça me dédouanait un petit peu de produire des choses. Et puis, en fait, assez vite, je me suis dit, bah, t'exagères parce que, en fait, tu fais ça depuis longtemps. Parce que dans mon métier d'infirmière psy, je m'occupais de l'éducation sexuelle des patients depuis des années. Et donc, du coup, j'avais quand même des connaissances et des petites choses à apporter. Pas meilleures, mais en tout cas, forcément, avec une approche différente des autres, parce qu'on a tous nos singularités et nos parcours. Et je me suis dit, allez, lance-toi, fais un petit gribouillis, un petit truc. Et puis en fait, là où était ma chance, c'était que c'était la période juste avant le confinement. Et qu'en fait, grâce au fait que les gens aient été chez eux disposés mm-hmm. à remettre en question peut-être des schémas, mm-hmm. puisque la fin du monde arrivait peut-être. et que moi, du coup, étant infirmière psy vivant un cauchemar dans mon travail, je me lançais à corps perdu dans ce compte Instagram qui était vraiment littéralement mon exutoire. Mm-hmm. Je dis souvent que ça m'a sauvé la vie, mais je pense que c'est pas... Je pèse mes mots quand je dis ça.
Oui, parce que tu travaillais dans le cadre du Covid.
Oui, ouais, exactement. Et donc le Covid, pour les patients psy, évidemment, on est les derniers de la chaîne. Mmh. On ne va pas se mentir. On était déjà très pauvres en moyens. Enfin, l'hôpital public était déjà très, très malade et très pauvre en moyens. Mais nous, on est les derniers à avoir du matériel. Vraiment, le bout du bout de la chaîne, s'il y a bien des gens dont on se fout, c'est les patients psy. Mmh. C'est très violent, en fait, déjà. Parce qu'on se battait. Moi, j'ai fait toutes les manifs en décembre, juste avant, etc. On a fait des années qu'on essaye de faire entendre notre voix et puis là on se prend une pandémie dans la gueule. Donc c'était très violent et puis, voilà, ça a aussi une période très difficile parce qu'il y a des suicides à cette période-là. Ouais, ouais. Voilà, j'ai un de mes premiers patients qui est décédé. Vraiment, ça faisait quelques jours qu'on était confinés, donc ça commençait assez violemment, même si pour le coup il n'est pas décédé du Covid, mais. Voilà, le contexte était très compliqué. Et donc, moi, du coup, je changeais les idées en parlant de sexualité de façon beaucoup plus légère que quand je l'abordais dans mon travail. Parce que moi, je l'abordais dans mon travail avec des patients, avec des passés de psychotrauma très lourds, des patients avec des pathologies plutôt graves et plutôt, plutôt chroniques. Mm-hmm. Donc là, c'est quand même plus léger de faire de la sexualité pour tout le monde. Et donc voilà, du coup c'était très chouette et ça s'est développé bien plus que ce qui n'était prévu, parce que de base c'était pour les copains. donc du coup c'est vrai qu'assez vite ça a pris un petit peu de proportion. J'ai eu aussi la chance d'avoir Fun Radio Belgique qui s'est très vite intéressé à ce que je faisais. Donc du coup j'ai eu je pense que ça faisait 2 mois que j'avais créé le compte, la chance d'avoir une soirée avec eux pour parler de sexualité. Super. Donc ça donnait un peu de visibilité. C'est toujours aussi grâce à ça que j'ai quand même pas mal de Belges finalement. Ça, j'ai passé plusieurs soirées sur Fun Radio Belgique. Et donc voilà. Et donc voilà comment a été créé Wiku. Donc Wikipédia fut un temps, mais ensuite ça n'a pas plu à l'institution qui est Wikipédia. Et donc j'ai dû raccourcir en Wiku pour m'éviter un procès. Face au géant qu'est Wikipédia et me gagner des années de sommeil, je pense. Donc du coup ça s'est raccourci en Wiku. Et donc pourquoi Wiker? Eh bien au moment de cette mise en demeure de Wikipédia de changer de nom, donc j'avais beaucoup de peine parce que ça me dépossédait de cette, presque de cette soirée, de ce moment avec mon meilleur ami un peu sympa que j'aimais bien raconter, etc. On me prenait mon jeu de mots, puis en plus on me stigmatisait, donc, enfin, c'était un petit peu douloureux. Et puis j'ai dit, dans une soirée, encore une fois, en ayant picolé un peu, j'ai dit « Ah mais si je m'étais appelée Wikipédia, on m'aurait jamais emmerdée. » et donc en fait, ça a tout de suite, je me suis dit « Ah Wiker, tiens c'est rigolo, enfin, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc Wiki-Wiker ?» Puisque quelques temps avant, mon compte Instagram a été censuré et donc j'avais créé un compte backup qui avait un petit peu d'abonnés. Je savais pas quoi en faire, c'était un peu triste d'en laisser de le laisser comme ça mourir. Et alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas du coup faire une espèce de petite famille, quoi, Wiku Wiker, et on traiterait ici de l'amour. Donc déjà, moi je me crée un endroit un peu safe parce que je serais moins censurée forcément que quand je parle de sexe. Et puis l'amour, ça parle à tout le monde, on a toujours besoin. Et en fait, moi j'ai rencontré mon partenaire actuel, mon amoureux même, sur des applications de rencontre, mais j'ai quand même la cour des miracles. C'est quand même très complexe. Vraiment, il y a de quoi, je trouve, vraiment s'arracher les cheveux sur les applications de rencontre. Et je trouve que ce qui est terrible, moi, qui suis encore old school, c'est que c'est le manque d'investissement des applications de rencontre. C'est-à-dire que je trouve que les gens ne mettent ni d'attention ni d'intention dans leurs recherches, quand bien même elles sont que pour la bagatelle. Enfin, je trouve qu'il y a un manque d'investissement, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais proposer aux abonnés de pouvoir déposer des petites annonces pour du cœur ou du cul. Moi, je...
Oui,
après,
c'est aux personnes de voir.
Mais avec vraiment, les mots seraient au cœur de ces petites annonces. Et moi, ma façon de les trier, parce qu'évidemment, j'en ai beaucoup, donc il fallait bien mettre des critères pour... Eh bien, c'est que ça me touche, forcément. Si ça peut être drôle, ben, ça, c'est cool. Mais aussi que, voilà, il y ait quand même un vrai investissement. On sent que la personne, elle a envie de cette rencontre pour une nuit, pour des semaines, ou des mois, ou des années, mais que les choses soient investies. Et voilà. Et du coup, ça a plutôt plu, en fait, à mes abonnés. Et Wicker est né.
D'accord.
Voilà.
Donc, deux beaux projets, deux petits bébés, ou gros bébés, même, on peut dire, aujourd'hui.
Ouais. Il y en a un adolescent, même, là, presque.
qui fait son petit bout de chemin et qui avance plutôt bien. D'ailleurs, il y a bientôt un an, je crois que c'était vers le fin du printemps, début d'été, tu as arrêté donc ton activité d'infirmière psy, même si effectivement en soi tu as toujours le titre aujourd'hui bien sûr, pour te consacrer pleinement à WICU et à WICER.
Ouais, exactement, en fait j'ai tenté un compromis dans la fonction publique, à savoir un mi-temps. Mm-hmm. Alors, les infirmiers à mi-temps, ça n'existe pas.
Ah.
On va pas se mentir. Ça n'a pas été accueilli de la façon dont j'avais envie que ça soit accueilli. Mm-hmm. Et je me suis retrouvée, en fait, face à un constat. Je suis épuisée. Mm-hmm. Gérer un compte d'éducation sexuelle et être infirmière en période pandémique. Enfin, déjà, infirmière tout court, c'est compliqué. Mais il fallait faire un choix. Et du coup, le choix était tout fait parce que... quand même envie de saisir cette expérience, et de toutes les façons, si j'ai envie de redevenir infirmière en poste, on m'accueillera à bras ouverts.
D'accord,
donc,
oui.
Voilà, autant tenter dans ce sens-là. Mmh. Et donc, voilà, en avril 2021, je quittais mon travail de la fonction publique pour me mettre à temps plein à gérer mes deux comptes.
D'accord, ok.
Voilà.
Et justement, est-ce que tu as des projets peut-être pour ces deux comptes Instagram pour les mois ou les années à venir ?
Wicker, lui, il y a tout à construire. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est vraiment un bébé récent, c'est un nouveau-né. Donc du coup, il y a tout à penser, un petit peu à le dynamiser. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais un petit peu de pédagogie quand même autour des relations amoureuses ? J'ai pas de diplôme, je suis pas diplômée en relations interpersonnelles, mais il y a quand même beaucoup de bon sens en fait et de psychologie, de choses que je pense que je maîtrise à peu près. Donc voilà, est-ce que j'apporte ça ou est-ce que je fais que des petites annonces ? Donc je réfléchis.
Là, c'est vraiment c'est en construction.
Ça fait vraiment qu'un mois et demi qu'il est lancé à temps plein. D'ailleurs, je me suis entourée, j'ai embauché quelqu'un pour m'aider à gérer, parce que le tri des candidatures, c'est un moment, c'est très chronophage, très intéressant, mais très chronophage.
Mais oui,
donc, du coup, voilà. Et puis pour WICU, mes projets. Moi, je suis pas quelqu'un, j'ai du mal à me projeter. Hein. Donc, mes projets. Dans l'idéal serait d'écrire un livre.
Ok.
Mais en fait, je refuse toutes les propositions de maisons d'édition depuis, je crois, presque un an. Ouais, les premières propositions, c'était en décembre 2020. Parce que ça me terrifie.
Ouais, d'accord.
En fait, j'ai toujours ce problème de légitimité. Du coup, moi, je finis mes petites études.
Oui, parce que c'est vrai que t'es diplômée, donc t'es infirmière en psycho spécialisée en sexo. Enfin, t'as fait tout un tas de formations ensuite dans d'autres secteurs ou dans des secteurs liés à l'éducation. Et aujourd'hui, tu refais une formation plus liée à la sexo.
Exactement, liée vraiment en fait à la pratique de la sexologie et aux outils thérapeutiques qu'on peut proposer en fait aux pistes thérapeutiques concrètes qu'on peut proposer aux patients qui viendraient nous consulter. Mais moi, je ne compte pas consulter, mais c'est pour du coup pouvoir proposer à mes abonnés des solutions concrètes ou en tout cas des pistes pour les personnes qui ne seraient pas encore capables de passer la porte, le cap d'une consultation sexo. Parfois, quelques petites pistes vont faire tilt en fait et pouvoir bien les aider. Donc moi, je trouvais ça hyper intéressant de continuer à me former, puis parce que c'est passionnant. Donc ça, c'était chouette. Donc voilà, j'aimerais bien écrire un bouquin. Je sais déjà ce que je mettrais dedans. Mais pour l'instant, j'ai encore eu un rendez-vous avec une éditrice il y a très peu de temps. J'ai toujours un peu la trouille. Et puis, je suis un peu fatiguée aussi. Et donc, je sais que c'est un investissement monstrueux d'écrire un bouquin. Et là, j'arrive enfin à trouver un équilibre, à avoir quelques petits jours de repos. j'ai du mal à penser que je vais me lancer dans une aussi grande machine tout de suite. Mais l'idéal, ça serait ça. Et puis après, je sais pas. Franchement, je suis pas. Moi, je vis au jour le jour. Je viens d'embaucher quelqu'un. C'est déjà une superbe aventure. Moi, je continue de me former.
Oui, Q et Wicker grandissent bien. Ils sont en forme.
Voilà. voilà, je pense que moi, je suis pas pressée. Enfin, je suis déjà quand même dans une machine que je maîtrise pas. Les réseaux, c'est pas du tout mon domaine. Donc, je fais preuve d'adaptation tous les jours et c'est pas toujours facile. Donc, voilà, j'ai vraiment envie d'aller tranquille. Donc, j'ai pas tant de projets que ça. Okay. J'ai toujours que Wicu, c'est un non-projet. Et, mais voilà, déjà, si je peux arriver à dire oui à une maison d'édition,
ça serait déjà vraiment une grande étape.
Ouais, très bien, vraiment génial. Et puis, si, j'ai oublié, avec mon ami Macha. Donc, Macha s'explique sur Instagram. On commence à proposer des ateliers. Des ateliers, donc deux types d'ateliers, des ateliers très, très concrets avec des tutos. On fait des tutos sur des jouets explicites, vraiment pour donner des idées en fait, parce que la sexualité c'est un investissement et qu'on n'est pas tous créatifs et créatives.
Et bah, toutes et tous éduqués aussi, malheureusement.
Bien sûr. Et donc, du coup, voilà, on dit souvent que la sexualité c'est un investissement, il faut investir dans sa sexualité. Comme dans les domaines dans lesquels qui nous intéressent, il faut toujours y mettre un petit peu de temps et puis des fois même un petit peu d'argent. Ça, c'est toujours plus difficile pour les gens de l'imaginer, mais on a bien de l'argent dans un Uber Eats, n'est-ce pas ? Donc, pourquoi pas de temps en temps investir dans sa sexualité ? Et donc, on commence à proposer des ateliers, donc tantôt vraiment très théoriques sur des fonctionnements de mécanismes du désir, etc. Et d'autres plus vraiment pratiques avec vraiment des exemples concrets, etc. Donc ça, c'est un projet qu'on a très envie de développer.
D'accord.
Voilà. Okay. Mais on est au tout début. Donc,
D'accord. Mais en tout cas, c'est un très beau projet, donc à suivre. Ouais, on vous souhaite plein de bonnes choses.
Merci.
Et du coup, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, toi, quels sont tes kinks ?
Alors, moi, je pense que j'en ai plein que je méconnais.
Ok.
parce que, bon, j'ai expliqué, je ne sais pas quand, mais il ne faut pas que je me perde dans le dire, que ma sexualité était assez tardive, enfin, découverte d'une sexualité épanouissante, en tout cas, très tardive. Mais, en tout cas, ce que moi, vraiment, c'est la soumission. C'est une découverte assez récente. Bon, quand je te dis récente, ça fait 5 ans, 5-6 ans. Mais comme j'ai 38 ans, bientôt, à l'échelle de ma sexualité, ça fait quand même long. voilà, donc moi, c'est vraiment la position de soumission qui m'excite terriblement. Okay. Voilà.
D'accord, super. Donc du coup, tu viens de le dire, tu as découvert ça il y a à peu près 5 ans.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire déjà, pour toi, qu'est-ce que c'est la soumission de manière générale ? Comment est-ce que tu l'imagines ?
Alors moi, c'est très perso, et moi, c'est l'occasion, voire la seule occasion que j'ai de m'abandonner. je suis quelqu'un qui... Je suis dans le contrôle de tout. Dans le contrôle de tout, dans l'hypervigilance et dans aussi l'empathie. Enfin, si tu veux, je suis quelqu'un... Je fais toujours passer les autres avant moi. Je ne suis pas infirmière pour rien, n'est-ce pas ? Mais du coup, la soumission me permet de ne pas avoir à penser.
Ouais.
D'avoir juste à suivre ce qu'on me demande et à du coup me laisser porter en fait et moi je vois vraiment comme la possibilité, l'autorisation de lâcher prise et de m'abandonner complètement
profiter
à quelqu'un, profiter du moment. Et puis, il y a le sentiment d'appartenance.
D'accord.
Dans la soumission. Alors, ça dépend de comment ça se passe, etc. Mais moi, j'aimerais bien l'idée, moi qui suis en dehors de la sexualité, quelqu'un qui a beaucoup de mal à être attaché.
D'accord.
pas attaché, mais c'est-à-dire à l'engagement, c'est toujours un truc hyper flippant et tout. Ben, là, dans une sexualité avec une forte soumission, souvent, il y a ce rapport de tu es ma chose, tu m'appartiens, etc. Que je trouve hyper excitant en fait.
D'accord.
Voilà, l'idée d'être petite chose comme ça qui appartient et qui exécute sans penser. Enfin, mm-hmm. Il y a un truc voilà, qui me plaît beaucoup. Mm-hmm.
Avec ce lien justement très particulier qu'on retrouve assez rarement, voire quasiment jamais dans la vie de tous les jours.
Très fort.
Oui. Ah, oui.
Très fort et très respectueux et unique. Enfin, c'est-à-dire que c'est en ça que c'est... J'ai eu beaucoup de chance, hein. J'ai toujours eu des relations de soumission, domination, avec du consentement fort, avec des choses posées, etc. Donc d'une sécurité infinie, en fait. Et donc c'est en ça que c'est hyper excitant, quoi.
D'accord, ok. Et du coup, quel est ton premier souvenir par rapport à la soumission, quel a été le premier, enfin le moment où tu as découvert cette pratique?
Bah, en fait, j'ai eu donc moi deux relations très longues. Enfin, j'ai été pendant 15 ans en couple dans des sexualités très classiques, très, très peu investies, très phallocentrées, hétéronormées. Enfin, l'ennui. Et voilà, l'ennui, je n'avais jamais eu d'orgasme de ma vie.
D'accord.
Je n'avais pas eu la chance d'avoir une éducation sexuelle qui me pousse ne serait-ce qu'à imaginer avoir des conduites masturbatoires, etc. Donc, vraiment, je ne connaissais pas le cul. Hein. Concrètement, je veux dire, je trouvais que c'était une contrainte infinie.
D'accord.
Et je ne comprenais pas que les gens en aient envie comme ça. Je me sentais très à la marge. Donc, je me posais la question d'une asexualité, d'un côté, et d'un autre...
Donc la sexualité, pour ceux qui... C'est eux qui nous écoutent et qui ne le savent pas. Tu veux peut-être l'expliquer ?
Oui, bah c'est le fait de ne pas avoir d'attirance, soit romantique, soit sexuelle, pour une autre personne. Alors moi, j'avais une attirance romantique de façon certaine, mais sexuelle, je me posais la question, en fait, puisque je ne ressentais pas de désir, vraiment aucune vie libidinale.
D'accord.
Enfin, tu vois, même seule, etc. Et donc, du coup, je me suis demandé si moi, j'étais asexuelle, en fait. Voilà.
D'accord.
Je me suis posé la question. Okay. Évidemment, tu sais, il y a tous ces stéréotypes de frigidité aussi. Merci Freud. qui venaient aussi me poser question. Enfin, est-ce que je suis cette femme frigide et presque morte de l'intérieur, enfin, tu vois ce que ça peut... Là, je me posais cette question-là, et puis, en fait, pas du tout.
Alors, que s'est-il passé?
Et donc, du coup, j'ai eu une nouvelle rencontre, en fait, qui était vraiment basée... Enfin, qui était une rencontre amoureuse, mais vraiment... Enfin, je sais pas comment... Cette relation était très particulière. C'était vraiment une relation coquine. Mais depuis le début. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pu échanger avec cette personne en dehors de mon couple, parce qu'après, je me suis séparée, etc., je me suis sentie que libido. Enfin, c'était un truc. Oui. Rien n'était dit. On était dans les non-dits, etc., parce qu'il y avait une relation... professionnel entre nous.
D'accord.
À l'époque, pas dans le milieu hospitalier, rassurez-vous, mais c'était... voilà.
Il n'y a pas de jugement, de toute façon.
Non, mais je me dis que si mes collègues entendent, ils vont se dire, mais c'est cette histoire. et du coup, voilà, je n'étais que libido, désir, presque comme une adolescente, où je me demandais ce qui se passait à l'intérieur de mon corps. Je me rappelle, j'ai souvenir dans les transports de transpirer, parce que j'allais le voir, alors que juste un rendez-vous prof, hein. Me mordre les lèvres, tu vois, des trucs machin, et je me disais, ok, ça vit là-dedans, il y a un truc en fait, tu vois.
Il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose, etc. Et puis, ça a été très long avant que les langues se délient entre nous, etc., du fait de cette relation prof. Hein. Voilà. Et après, à partir du moment où on a pu évoquer des sentiments d'attirance, etc., ça allait très vite. On a mis du temps hein, avant de... Enfin, il y avait ce truc-là qui n'est pas éthique, tu vois, de la relation. Très vite, on a pu se voir à plusieurs reprises en extérieur, comme si on savait que ça allait être tellement intense qu'on ne savait pas si on était capable de l'assumer, etc. Et puis, dès nos premières soirées... sexuelle, ça a été d'une intensité que je n'avais jamais connue, c'est-à-dire que c'est que, bon, je pense que c'est quelqu'un qui est un dominant, hein, de façon générale, mais ça, j'avais remarqué depuis le début. Je pense que ça m'avait plutôt bien plu. C'est vrai que j'ai découvert déjà... alors, c'est ce qui est vraiment paradoxal dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire que pour la première fois, j'étais soumise instantanément, c'est-à-dire que les choses se sont faites très naturellement, et d'un côté, je me sentais terriblement respectée dans mon plaisir. Parce que les gens imaginent toujours qu'on n'est pas respecté quand on est soumis, alors que là, c'est la première fois de ma vie qu'on a mis de l'intensité à me donner du plaisir, quoi. Je sentais une... du coup, moi, j'avais pas grand chose à faire, quoi. J'avais l'impression d'être quelqu'un qui a le même âge que moi. J'avais l'impression d'être une gamine et qu'on m'apprenait la vie, quoi. Et dans un truc extrêmement dominant, extrêmement soumise, mais avec un dialogue autour de la sexualité qui... Enfin, on parlait tout le temps, en fait, de cul. Hein. J'avoue que tout tournait autour du cul, mais on a pu construire cette relation amoureuse et sexuelle. On n'aura jamais... on ne saura jamais te dire exactement le statut. Ça a duré un an, comme ça. Okay. Et donc, là, je me suis sentie pour les premières fois vraiment... Donc déjà respectée. Et donc, du coup, avec encore plus envie de tout donner, quoi. J'ai grandi. Libre. Et avec un sentiment d'appartenance. Enfin, moi, c'est ça qui m'excitait beaucoup. Et pourtant, dans la vie, j'avais pas envie de m'engager. Lit, j'avais
D'être pour quelqu'un.
D'être pour quelqu'un. Il y avait un truc comme ça. Et donc, ça a commencé par des choses très simples, hein, si tu veux, des détails. C'est vraiment c'est la première fois qu'on me tirait les cheveux.
D'accord.
Tu vois, c'est la première fois qu'on me tirait les cheveux, mais... On m'avait déjà tiré les cheveux quand même, mais on a fait mal, tu vois. Enfin, il n'y avait pas une vraie... Il y avait juste une volonté
égoïste. Une sensualité égoïste, ou quelque chose de partagé, en tout cas.
Très égoïste, en fait, quand c'était arrivé. Donc, d'ailleurs, si on ne tire pas tous les cheveux, on fait très très mal, il faut le savoir. Regroupez-nous les cheveux, bah merde. Ça commençait par des tirages de cheveux. Bon, alors, une sexualité relativement tonique, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est vrai que oui, c'était quand même... ça pouvait être violent, mais c'est toujours hyper respectueux. Alors, j'ai du mal à mettre le mot violent, tu vois.
Pour moi, je comprends.
C'est pas ça. Et puis après, c'est là que j'ai découvert les étranglements.
Ok.
Première fois. D'ailleurs, je vois pas qui j'aurais pu laisser faire ça avant. J'avais pas eu des partenaires avec lesquels je me sentais pourtant, 8 années pour un, etc. Assez safe pour laisser faire ça. Pour leur dire, mais qu'est-ce que tu fais? J'avais la police. Donc, du coup, non, on a pu en parler, etc. Il a pu m'expliquer comment il fallait qu'il se positionne pour que machin, et qu'il fallait que je. Si j'étais en difficulté, on avait évidemment mis des codes en place, etc.
Oui, parce qu'il faut le rappeler, du coup, la pratique de l'aide. Tranglement ou le choking en anglais, c'est une pratique qui est assez dangereuse parce que ça consiste de base à asphyxier la personne, en tout cas à appliquer une pression au niveau de ses voies respiratoires pour faire en sorte que l'air passe plus difficilement, voire plus, pour après provoquer un sentiment d'impuissance, provoquer des sensations aussi sur le plan physique, psychologique, etc. Ouais. C'est une pratique qui, même si elle est consentie et qu'elle entre dans un cadre de jeu, c'est une pratique dangereuse pour laquelle il faut effectivement s'informer, en discuter et effectivement, comme tu l'as dit, poser un cadre et prévoir des safe words, des safe codes, des safe gestes.
Ouais. Du coup, le safe word, c'est compliqué avec l'asphyxie.
Quand tu parles, heureusement, il en existe. Enfin, il existe d'autres techniques.
Ouais, heureusement qu'il existe d'autres techniques, parce que c'est archi banalisé. Alors que c'est quand même hyper dangereux, en fait. Ça peut arriver très vite. Ça peut arriver très vite que l'asphyxie soit trop longue, quoi. Donc, du coup, c'est en ça que c'est excitant, parce que justement, quand on sait qu'on le fait dans un cadre... archi safe, qu'on va pouvoir dire stop quand on en a plus envie, et que mais que du coup il y a un peu ça fait un peu conduite ordalique. Je sais pas si tu vois ce que c'est l'ordalique, c'est la mort, quoi. En fait, c'est les conduites ordaliques, c'est souvent les adolescents,
d'accord,
mise en danger, tu vois. Il y a ce côté un petit peu quand même mise en danger, mais mise en danger balisée,
on flirte avec,
c'est un côté un peu excitant quand même. ce côté vraiment là je te fais une confiance inouïe parce que je te laisse m'étrangler quoi. Et donc ça c'était vraiment, et puis même au niveau enfin cérébralement c'est hyper excitant donc du coup c'est des moments qui peuvent te faire avoir des orgasmes je pense, enfin je peux te le dire assez cool
Mais justement c'est très intéressant que tu parles du côté cérébral parce que c'est quelque chose qui peut revenir assez régulièrement une idée reçue pour les kings, que ce soit fétichisme, BDSM, il y a forcément une sexualité, il y a forcément un rapport physique. Alors que tu l'as dit, il y a un aspect cérébral qui est très important, donc ça répond quelque part à la question que j'allais te poser. Est-ce que toi, ta pratique est sexualisée ou non, et pourquoi ?
Je dirais qu'elle est mixte. Mais il y a un côté... je veux dire, on peut avoir des orgasmes sans jamais être touché. Par exemple, des exemples que moi, je méconnais dans ma pratique personnelle. Par exemple, le candolisme. Le spectateur. Le spectateur pourrait jouir du spectacle que lui offre son ou sa partenaire d'être prise ou pris par un autre ou une autre. Et parce que c'est ce sentiment, en fait, d'humiliation. Enfin, c'est une espèce de mélange d'humiliation-soumission.
De voyeurisme.
De voyeurisme, etc. Qui est hyper excitant et qui
est complètement cérébral.
Et qui est complètement cérébral. C'est pareil pour les rêves érotiques. Ils ne sont que cérébraux. On ne se tripote pas la nouille en dormant. On se réveille, bam, on est éveillé par cette vague orgasmique. Mais c'est absolument cérébral. Donner du plaisir. Quand on donne du plaisir, je peux avoir des orgasmes. Alors évidemment, certainement que j'aurais fait un peu de humping sans m'en rendre compte, etc. Mais juste voir l'autre s'abandonner à vous et vous faire confiance et prendre du plaisir, c'est que cérébral. Parce que sur ce moment-là, physiquement... je ne ressens rien, à part l'excitation dans mon ventre. Et tu vois tout ce qui peut se passer.
Sur le visage, sur le corps de l'autre.
Exactement. Puis on a le clitoris qui gonfle, etc. On peut le sentir, mais on n'a pas de stimulation physique directe du partenaire ou de soi, parce qu'on a les mains occupées, on est très occupé. et ça, c'est absolument jouissif. Donc moi, je dirais que c'est mixte. C'est mixte parce que j'aime les deux, mais je n'aurais pas choisir. Choisir, et je trouve que vraiment... tout ce qui peut se passer dans l'excitation, de la soumission, mais de la sexualité de façon générale, cérébralement, c'est d'une richesse inouïe, fait. Et ça veut dire qu'on n'en sera jamais privé. Ça veut dire que le jour où pour quelle raison que ce soit, on n'a pas on a un problème physique, quoi. Tu vois, on ne peut plus, j'en sais rien. Moi, c'est plus facile quand on a un pénis qui sécherait de bander, par exemple. Du coup, on peut penser que ça partira pas, ça. C'est génial, nous on investit tout dans le corps. Mais il ne faut pas oublier que le cerveau, c'est notre principal organe sexuel.
Complètement.
Donc,
je suis complètement d'accord avec toi, c'est quelque chose qu'on a tendance parfois à mettre de côté, alors que en faisant travailler notre imaginaire, en fait, en développant nos fantasmes, c'est comme ça aussi qu'on fait vivre notre sexualité et qu'on la vit.
Y a beaucoup de tabous autour des fantasmes aussi. Et puis l'érotisation. Enfin, en fait, tout ce qui est... Alors, beaucoup chez les femmes aujourd'hui, encore, on avance. On avance presque à pas de géant. Mais avant, il y avait tout ce tabou de la masturbation. Donc, du coup, qui dit masturbation dit souvent support. Pour cultiver notre imaginaire érotique. Et qu'est-ce qui était proposé? Du porno dégueulasse. Alors évidemment, il y a du très bon porno, mais ce qui est accessible, gratuit, immédiat, en claquant des doigts, c'est du porno mainstream, qui est souvent quand même avilissant, enfin pas que, mais c'est pas forcément adapté à toutes les sexualités. Et donc du coup en fait non, on n'imaginait pas qu'il y avait d'autres façons de pouvoir cultiver son imaginaire érotique. Et puis les fantasmes, c'est un grand tabou. Les fantasmes dans les couples exclusifs.
On n'en parle pas, on les garde pour soi.
On a l'impression déjà que le porno est considéré parfois comme un amant, une amante. Alors là, les fantasmes, c'est pareil. C'est-à-dire que ça vient toujours questionner sa position dans le couple lorsque notre partenaire a des fantasmes qui ne nous concernent pas. Mmh. Et alors que en fait, enfin, l'imaginaire érotique, on peut pas le condamner. Enfin, il nous appartient, mais il nous appartient pas. Enfin, il s'impose à nous, quoi. Mmh. Il part évidemment d'inconscient de conscient. Enfin, c'est qui on est. On peut pas se mentir. Mmh. Les fantasmes, ils sont pas à mille lieues. Alors si on a vraiment très enfoui qui on est, notre mmh. passé, etc. Mais il y a un lien mmh. avec nos vraies envies du fond mmh. de l'inconscient. Mais des fois, c'est très compliqué pour le partenaire, la partenaire, d'entendre les fantasmes de l'autre, ouais. surtout mmh. quand il n'y est pas ou il n'y est pas.
Effectivement.
Alors que moi, je trouve ça hyper sexy, les fantasmes.
Mais même effectivement, quand on peut être dans le cadre d'un couple, on peut continuer, enfin, on continue aussi d'avoir une sexualité en tant qu'individu au final.
Bien sûr.
C'est quelque chose qu'il faut garder, et même de manière générale sur le plan amoureux. Oui, on forme un couple, mais ouais. on reste aussi un individu à part entière au sein de la société, ouais. avec ses envies, ses besoins, etc. On
ne
s'oublie pas, en fait.
Son auto-érotisme ouais. aussi, mm-hmm. qui nous appartient complètement. Enfin, mm-hmm. on ne doit de compte à personne. Notre sexualité n'appartient à personne, pas même à la personne mm-hmm. avec qui on partage ouais. une partie de notre vie. Donc, mais ça, il y a encore du boulot. Hein. Mm-hmm.
Et toi, justement, aujourd'hui, quel est ton rapport à ta sexualité? Est-ce que, par exemple, tu te sens à l'aise, tu en as honte peut-être, ou tu es très épanouie, ou tu culpabilises ou autre? Et pourquoi, ouais. selon toi?
Alors, moi, je veux dire plein de choses paradoxales. C'est hyper drôle parce que d'un côté, alors pendant des années, je me suis sentie marginale, c'est-à-dire au tout début. Les premières années, longues années de ma sexualité marginale, parce que du coup, j'avais pas d'intérêt pour la sexualité, mmh. Et que j'avais du mal à comprendre quand je partais en vacances avec mes copines et qu'elles disaient, moi, là, j'ai hâte de revoir mon mec, j'ai pas mmh. de peine depuis machin, et moi, je me disais, mais putain, moi, je suis en vacances, quoi. Enfin, et donc, voilà, j'avais vraiment, donc, vraiment à la marge, et puis avec aucune conduite masturbatoire, enfin, vraiment, je me sentais pas drôle, quoi. Mmh. Et puis après, quand j'ai commencé à découvrir la sexualité et à l'expérimenter, etc., donc j'ai rencontré d'autres partenaires, j'ai expérimenté des choses un petit peu chouettes, je me suis découverte, j'ai acheté mes premiers sex toys bien avant de tenir Wiku, etc., mm-hmm. etc. Alors là, je me suis sentie à nouveau marginale, parce mm-hmm. que trop libérée, mm-hmm. trop... énormément de stigmatisation sur les femmes qui prennent du plaisir dans leur sexualité, ouais. et qui l'assument. Mmh. Donc là, du coup, je me dis, bah merde, je suis pas dans le juste milieu. Ouais. Rien. Mmh. Et alors du coup, là, j'ai surinvesti ma sexualité, mais autant, peut-être même plus seule qu'avec des partenaires. Mais j'avais mmh. vraiment envie de rattraper et de découvrir le champ des possibles de ce que ce corps mmh. pouvait faire, alors qu'on m'avait fait croire que je n'avais mmh. pas de plaisir, en fait. Mmh. Parce qu'évidemment, on m'a beaucoup reproché mon peu d'intérêt pour la sexualité mmh. sans jamais se remettre en question. Donc, mmh. moi, j'avais intégré que c'était moi qui fonctionnais mal. Et donc, j'ai beaucoup exploré, etc. Puis j'ai créé un compte d'éducation sexuelle qui fait que je parle de cul toute la journée. Mmh. Et bizarrement, depuis quelques temps, je relativise l'intérêt de la sexualité. C'est-à-dire que je trouve que, en fait, quand c'est asexuel... Enfin, je sais pas comment dire. Maintenant, j'ai plus de peur. La sexualité mmh. J'ai plus peur de ma sexualité. J'ai pas de barrière, j'ai rien que je pourrais pas expérimenter. En fait, je la relativise dans le sens où je me dis, ok, maintenant j'ai compris ce que mmh. c'était la sexualité, et elle peut être moins investie de temps en temps. Mmh. C'est-à-dire que quand j'ai découvert la sexualité, je me suis dit, waouh, je veux plus jamais m'en passer, ou, mmh. etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai une libido qui s'est réveillée, et du coup, je mmh. pense que j'avais une dette de libido.
D'accord.
Il a fallu mmh. la récupérer, tout ça. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une partie de bonheur de notre vie, enfin, de notre équilibre psychique, c'est la sexualité. Mais qu'elle n'est pas... À un moment donné, j'avais l'impression que c'était... Il fallait la cultiver tous les jours. Une espèce d'injonction mmh. à être toujours dans l'hyper-cul, à être une, tu vois, une bête de sexe, à tout savoir, tout comprendre, tout analyser, tout décortiquer. Mmh. Bon, là, je suis beaucoup plus en distance de ça. Je me laisse vivre aussi. Ouais. Je suis obligée d'intellectualiser tout, parce que comme c'est mon travail, et que du coup, on me demande beaucoup d'analyser... dans l'analyse de soi-même, et c'est fatigant. Du coup, aujourd'hui, je l'ai un peu mise à distance. Enfin, elle est très chouette et je l'investis, mais en fait, c'est comme toutes les sphères de notre équilibre psychique, et puis parfois, elle est un peu off, et c'est pas grave, et que je suis pas obligée de tout intellectualiser, et tout machin. Donc c'est marrant, parce qu'il y en a plusieurs vies sexuelles, et plusieurs rapports à notre vie sexuelle. Et en ce moment, ouais, je la mets plus au centre de tout. Je l'adore quand même. Mais du coup, ouais, j'ai envie d'arrêter aussi de tout analyser dans ma sexualité. Parce que c'est le pendant de tenir un compte d'éducation sexuelle.
Oui.
C'est qu'on est dans la suranalyse et que j'ai pas envie que ça me tue la libido. Parce que
oui,
sais que ça a fait ça à certains comptes sexo.
Quand on passe son temps en fait à penser à sa sexualité,
ouais,
ça capte toute notre attention en fait. Et forcément, ça va affecter notre libido et l'accès au plaisir.
Ouais, ça parasite en fait. Donc là, je suis vachement plus détendue et moins dans la performance. Parce que, évidemment, quand j'ai découvert la sexualité, je tenais pas de compte sexo, etc. Bon, j'avais jamais lu aucun bouquin. Et donc là, j'étais un peu dans la performance. Il y avait un truc comme ça où je voulais aussi, j'avais envie de tester.
Oui.
Jusqu'où je peux aller, combien de temps je peux tenir. Enfin, des trucs en fait un peu d'ado, mais j'avais 32 ans, tu vois. Enfin, mais aujourd'hui, je suis plus du tout dans la performance.
Ouais.
Vraiment dans l'instant T.
D'accord.
Tu vois, voilà. Donc, c'est plein d'évolutions, ma sexualité.
Bah, c'est bien, c'est beau. Et justement, donc, t'as déjà parlé d'une précédente relation, la première relation avec laquelle donc, tu as découvert la soumission. Est-ce que tu as construit d'autres relations en continuant donc, à vivre ce rapport domination-soumission? Du coup, si c'est le cas, voilà, est-ce que c'était avec ton partenaire et est-ce que la personne était au courant?
Bah, en fait, j'ai au fil donc des années, parce qu'en fait, il s'est passé des années entre cette première relation et puis aujourd'hui, bah, en gros, 5-6 ans là, que j'ai du coup ouvert le champ des possibles de ma sexualité. Et donc oui, j'ai fait pas mal de rencontres et quelques rencontres de grands dominants.
Okay.
Avec lesquels j'ai pu expérimenter d'autres types de relations, parce que la première était une relation... amoureuse et sexuelle, et des relations uniquement, j'ai envie de dire, pas amoureuses, mais très respectueuses, mais vraiment sans... on n'allait pas au ciné, quoi.
D'accord. vous saviez pourquoi vous voyez.
Ouais, et donc du coup, avec... il y avait un presque comme moins d'enjeux encore. Je sais pas comment te dire, parce que c'est pas, y a la séduction quand même, etc. Forcément, mais du coup, oui, j'ai rencontré plusieurs partenaires. Alors, il y a des gens avec qui on sait d'emblée que il n'y aura pas forcément cette relation-là et on va investir la sexualité autrement et ça va être très très chouette. Mais oui, j'ai rencontré d'autres partenaires, et dont un qui était le plus grand dominant que j'ai rencontré et qui lui a des pratiques, enfin, tu vois, va dans des clubs, enfin, ce que moi j'ai jamais expérimenté, moi je fais maison homemade, tu vois, voilà. Mais qui du coup, avec lequel je suis allée le plus loin, je pense, dans mes expériences, vraiment de, avec... là pour le coup ce qu'on abordait tout à l'heure, ce qui est avec vraiment des ordres, des scénarios prédéfinis ou avec des choses à faire, et c'était très intéressant.
D'accord.
Je sais pas si j'aurais pu, par exemple, par contre, je sais pas si j'aurais pu faire ma vie avec, c'est-à-dire que je trouve que ça demande une énergie. Je trouvais ça épuisant.
D'accord.
Il y avait un côté hyper intéressant, donc je faisais pour l'expérience, hyper excitant, etc. Mais fatigant. Un truc où tu te dis, je sais pas si je suis faite. Moi, je suis faite pour une alternance, quoi. Un truc un peu. Moi, je suis vraiment. Il faut que les choses bougent, que tout soit possible. Mais c'était. Je me suis dit, ah ouais, de vivre avec quelqu'un d'aussi dominant, qui est quand même dominant, forcément, un tout petit peu aussi dans le reste, même si ça n'avait rien à voir. Ça me correspondait pas.
Je pense qu'après, effectivement, ça doit être une question d'énergie, de caractère et de personnalité.
Ouais.
Et chaque personne, après, peut construire la relation qui lui correspond. On sait aujourd'hui, on en parle de plus en plus, qu'il y a tout un tas de formes de relations possibles, que ça soit effectivement en couple exclusif, en couple libre, qu'on ait une sexualité vanille, qu'on ait une sexualité plus tournée vers le fétichisme, le BDSM. Au sein du BDSM, ça peut être de la soumission, de la domination, mais pas tout le temps, de temps en temps, ou ça peut être des rapports dominants, dominés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ah, oui, oui.
Ça, on en a parlé dans l'épisode avec Zeta et Antigone. Mais voilà, chaque personne effectivement peut construire la relation qui lui correspond en fonction de ses envies, de ses besoins, de ses capacités. Voilà, tout est possible et du moment que c'est convenu avec l'autre.
Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a toujours une dichotomie entre vraiment le sexe vanille et le sexe kink. Et que du coup, évidemment qu'on sait, nous, qu'on peut très bien alterner.
Absolument.
Mais déjà, il y a un vrai jugement, je trouve, que sur le sexe vanille. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu presque has-been, tu vois.
D'accord.
Je trouve ça dur, aujourd'hui. Et je trouve que oui, comme si... Enfin, pour le coup, moi, j'aurais du mal à choisir.
Ouais.
Ça, j'aurais vraiment du mal à choisir parce que j'ai envie des deux et puis peut-être pas pendant des mois d'un, puis pas pendant des mois de l'autre. Il y a toujours un peu comme ça où il faut que j'aille choisir et moi, je pourrais pas.
Mais c'est bien aussi de ne pas choisir parce qu'il y a un spectre, en fait, des possibilités qui est hyper large. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. En fait, chaque facette de notre sexualité apporte, selon moi, quelque chose de différent en termes de sensations, en fait. Donc, effectivement, on peut à un moment préférer telle pratique à un autre, celle-ci, et en découvrir une autre à un autre moment de notre vie, revenir par celle avec laquelle on avait commencé notre sexualité. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment... je pense, de s'affranchir des diktats, des stéréotypes de la société, prendre conscience de ce qu'est la sexualité, de vraiment la diversité de ce qui existe, et de se dire que les limites, en fait, ce sont celles qu'on s'impose à soi-même, parce que en termes de sexualité, une des clés, c'est vraiment notre imaginaire, notre imagination. Et dans ce cas-là, en fait, quasiment tout est possible du moment que c'est légal et fait avec le consentement des personnes impliquées. Donc, vraiment, enfin, je pense que tout est possible et du coup, évoluer d'une sexualité à l'autre, enfin, je trouve que c'est génial.
Ouais, c'est la liberté, en fait. Et ça, c'est vraiment chouette de pas se sentir enfermé dans une pratique... Mais moi, c'est la première fois que j'avais ressenti ça avec la personne que j'avais fréquentée, c'est qu'il n'y avait pas d'autre sexualité possible.
Voilà. D'accord.
C'est ça qui m'a fatiguée d'avance. Parce que je savais que j'allais avoir besoin, même si j'y allais avec grand plaisir, etc. Mais du coup, par parcimonie, parce que c'était fatigant.
Oui, après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui prennent du plaisir uniquement à travers certaines pratiques. Ou uniquement à travers certains fétichismes, etc. Ça existe aussi, c'est complètement ok, comme le fait d'aimer absolument tout, enfin, même si voilà, on n'aime jamais, je pense, tout, parce que du coup, on l'a dit, c'est assez infini. Mais en tout cas, voilà, sur le spectre, encore une fois, des choses que l'on peut pratiquer, on peut aimer pratiquer une seule chose, on peut aimer en pratiquer 10, et dans tous les cas, c'est ok. L'idée, du coup, c'est de trouver une personne ou des personnes qui seront en phase aussi avec ça. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu es dans une relation et comment ça se passe par rapport à tes kinks?
Aujourd'hui, je suis dans une relation trop chouette. qui a 9 mois.
Ok.
L'histoire de mes relations amoureuses, c'est relativement récent. Du coup, comme j'ai des histoires très longues, mais en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai une relation si saine.
D'accord.
Si équilibrée et qui ne me fait pas peur. Et alors, ça, déjà, c'est incroyable. Et notre sexualité, elle est, je sais pas comment dire, elle nous ressemble. Enfin, je sais pas comment te dire. Faudrait que j'aurais dû l'inviter. Non, elle est. Alors, il y a pas. On n'est pas trop. Enfin, en tout cas, de ce qu'on a entrepris dans notre sexualité, elle est. Il y a pas trop de soumission. Alors, de temps en temps, il y a des moments quand même du coup où mon partenaire il va être plus dominant, etc. Mais en fait, notre relation, alors là, c'est ça qui est, elle est tellement égalitaire, c'est complètement fou, et tellement bienveillante qu'en fait, il y a beaucoup d'énergie à donner du plaisir à l'autre. C'est quelqu'un avec qui, alors ça, c'était mon rêve absolu, tu vois, j'aurais jamais pu rencontrer, qui donne beaucoup d'importance au toucher. Au peau à peau, au massage, et on met beaucoup d'énergie à se masser, et c'est ça, c'est un temps enfin c'est en fait c'est plus que c'est presque je me suis presque rapprochée du slow sex en fait, tu vois, qui était
le côté sensuel aussi,
ouais, mais de la vraie envie de s'occuper de l'autre, mais de son bien-être, pas que son bien-être sexuel, tu vois, en fait, sans forcément, et donc du coup une vraie intimité, et donc ça me change un peu, mais ça faisait quelques temps que j'avais une sexualité un peu plus douce, mais c'est hyper intéressant en fait, d'investir une sexualité comme ça, hyper sensuelle, qui prend son temps, où il n'y a pas de performance, tu vois, parce qu'il y en a quand, en général dans les... quand même dans les rapports de soumission, c'est le grand dominant, tu vois, qui... enfin, moi, j'avais des partenaires, voilà, qui étaient quand même dans la performance. Et là, on n'est pas dans ça, on est dans la découverte, le non-jugement. Donc, en plus, dans le « on s'interdit rien », c'est-à-dire que on sait pas... on peut parler de notre sexualité, on peut parler... des envies qu'on a, on peut aussi dire les limites qu'on a et dire alors ça jamais, mais alors on sait très bien que jamais il vaut rien du tout. Mais voilà, en fait, comme je suis très sereine dans ma relation et je lui donne pas de limites dans le temps, et ça fait longtemps que je donne pas, parce que dans l'ordinaire je te dis d'emblée, alors là ça va durer 3 mois si je sais déjà.
D'accord.
Et là non, en fait, j'ai envie de le garder, je crois, assez longtemps dans ma vie. Et ben du coup j'ai l'impression que le champ des possibles est complètement ouvert, quoi. Mais qu'on prend notre temps et voilà, c'est trop chouette. D'accord. Mais du coup, on n'est pas du tout. Il y a que très peu de moments de vraie soumission, domination. Et puis quand ça arrive, c'est cool. Mais aussi, j'ai pas envie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injonction et pas d'obligation à ce que j'ai une sexualité. Où je serai soumise en fait, et donc du coup moi j'ai envie de laisser le temps au temps, de laisser découvrir des choses, parfois je vais guider ma main autour de mon cou, parfois je... mais voilà, mais du coup avec, j'ai envie vraiment de partager les envies et pas que, en fait c'est très vite quand tu tiens un compte sexo, que les gens déjà t'imaginent une sexualité bien plus incroyable que ce qu'elle est, parce qu'on a une sexualité comme tout le monde en fait, hein.
Mais le plus important en fait, c'est juste d'être épanoui dans sa sexualité, peu importe ce qu'elle est, les pratiques qu'on fait, c'est de prendre du plaisir et d'être avec quelqu'un qui nous en donne et qui en prend aussi.
Et les gens projettent beaucoup, tu vois, tu veux pas. Et du coup, moi j'ai toujours cette crainte, tu vois, de dire oui, alors je tiens un compte sexo, machin, et là en fait, ouais, j'ai envie de laisser le temps de découvrir un tas de choses. Et, un truc, tu vois, que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment expérimenter, qui pour le coup est là dans la soumission, c'est le shibari. Vraiment, j'ai très envie, quoi. Et ça, je sais qu'il n'est pas du tout insensible. J'aurais très envie de le faire avec lui.
Donc, faire des jeux avec des cordes.
Dans l'idéal, j'aimerais bien aller dans une école. Tu vois, encore une fois, c'est une pratique qui est risquée.
Effectivement.
Et voilà, l'entrave, c'est risqué. On a des veines, des artères, des nerfs, plein de choses qui pourraient être abîmées en fait, si on fait mal le travail. Donc, ouais, j'aimerais bien faire un truc un peu safe, apprendre vraiment bien. Moi, j'aime bien faire les choses. Je suis une bonne élève, tu vois. Donc, ouais, j'aimerais bien. Je pense que c'est faute un peu de temps et d'énergie parce que. Wiku, ces derniers temps, était très chronophage, mais je commence à avoir des jours de repos, du temps pour moi. Donc en 2022, ça peut être un projet.
Eh bien, on te le souhaite. Cool. Ouais. Moi, du coup, si je peux te donner un conseil par rapport à ce qu'on a pu me dire sur le shibari, mais comme pour toutes les pratiques, en fait, de manière générale, ça va être d'abord, effectivement, de bien se renseigner, en fait. De faire ses recherches. Aujourd'hui, on a accès aux informations, c'est incroyable, en fait. Donc, soit sur Internet ou même les livres, il en existe quand même beaucoup sur le sujet. Et chercher différentes sources, en fait. Parce que pour quasiment toutes les pratiques, il y a plein de manières de les réaliser, en fait. Il va y avoir différents courants, différents mouvements, différents styles, différents codes, notamment pour le shibari, il y a différentes manières de l'appréhender et donc différentes manières de le vivre. Et moi, ce qu'on dit en général, c'est qu'il faut prendre le temps d'observer la pratique, d'observer la manière dont on la réalise pour vraiment voilà, arriver à dire « Ok, il y a telle et telle manière de pratiquer avec tel et tel code et moi, je me retrouve plus dans cette manière » ou dans celle-ci, ou j'aime bien un peu de celle-ci, un peu de celle-ci. Donc ça, déjà, c'est important. Et pour le shibari, on l'a dit, ça reste une pratique qui est dangereuse parce que ça vient entraver les mouvements. Enfin voilà, le corps humain, même si c'est quelque chose qui parfois est incroyablement solide et a des capacités incroyables, ça reste quand même parfois aussi très fragile et on peut s'endommager et parfois perdre certaines fonctionnalités, certaines sensibilités au cours de séances de shibari si la corde est placée par exemple sur un nerf ou ailleurs. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, les effets aussi que ça peut avoir sur le corps en termes de libération d'hormones, parce que parfois en fait ça s'étale sur plusieurs heures, voire sur plusieurs jours ou sur plusieurs semaines, certains effets. En tout cas moi c'est ce qu'on m'a rapporté. Donc voilà, c'est important aussi d'en avoir conscience et juste de bien se renseigner avant de se lancer et de par exemple effectivement contacter des écoles pour assister à des ateliers, mais toujours après, en tout cas par rapport à ce qui m'a été rapporté dans un premier temps, d'être dans l'observation, de voir comment est-ce que l'institution, le lieu, l'association qu'on fréquente, comment est-ce que on pratique, quels sont les principes de base. Donc, selon moi, le consentement, etc., la sécurité, comment est-ce qu'on manie ces outils, et ensuite,
c'est un art, hein.
Complètement. Et ensuite, les partenaires avec lesquels on travaille, on fait cette expérience. Selon certaines personnes, il faut avoir un lien, sans mauvais jeu de mots, un lien avec la personne pour explorer cette pratique qui est très intime. D'autres personnes vont penser que voilà, c'est pas forcément nécessaire et qu'on peut faire du shibari avec une personne qu'on rencontre comme ça. Donc voilà, après tout, encore une fois, est question de sécurité et de ce qu'on recherche. Mais voilà, c'est vrai que moi j'ai des personnes qui m'ont plutôt dit que c'est mieux, plus sécurisant des deux côtés d'entreprendre ce genre de pratique avec une personne voilà, qui elle aussi a eu une démarche de recherche, de découverte de la pratique et avec qui il y a un lien émotionnel qui est déjà établi et une confiance du coup aussi qui existe.
Oui, voilà. C'est pas une pratique anodine.
Donc voilà.
Bon,
petit
voilà,
conseil qui, je te le souhaite, aboutira à quelque chose. Et pour terminer, est-ce que tu aurais peut-être un petit conseil pour les personnes qui sont attirées par la soumission et qui aimeraient découvrir ça?
Je sais pas comment on peut, si tu veux, projeter de débuter. Tu vois, c'est-à-dire que si c'est avec un partenaire qu'on connaît, c'est forcément plus sécurisant. Moi, ce que je trouve ça intéressant de savoir si on est vraiment sensible ou pas à la soumission, c'est d'écouter des podcasts. En fait, alors pour des personnes qui seraient réceptives, parce que sinon il y a évidemment tout ce qui est porno visio, mais
tu vois, pour savoir les récits érotiques aussi,
les récits érotiques, la littérature érotique, pour voir un peu si ça nous parle, si ça nous émoustille, si ça voilà, parce que le pratiquer avec un partenaire qu'on connaît, c'est absolument cool. Enfin, si le consentement est éclairé, si on a une envie, voilà, on est enthousiaste à l'idée, etc. C'est chouette. Mais si on n'est pas sûr de cette envie avec quelqu'un qu'on méconnaît, c'est pas toujours simple de dire voilà, alors j'aimerais coucou. Donc du coup, je crois que les choses, elles se font un petit peu naturelles. Il y a quand même un petit peu de naturel qui se fait dedans, mais c'est surtout s'écouter. Est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce que ça nous, à l'idée, ça nous provoque des choses? Est-ce qu'on est capable aussi d'avoir un dialogue sexuel, une communication sexuelle? C'est pas si simple. Les gens ont énormément de mal à communiquer aujourd'hui. passe le temps derrière nos téléphones, etc. Enfin, on parle de moins en moins les uns avec les autres.
Ça, c'est paradoxal, du coup.
Ouais. Mm-hmm. Et donc, du coup, la communication sexuelle, c'est la clé de, d'une sexualité épanouie et safe. Mm. Donc, voilà, pour tester la soumission, il faut savoir communiquer sexuellement. Trouver un communicant, une communicante. Parce que je trouve que la soumission... Enfin, peu importe en fait, mais la sexualité, si elle n'est pas safe, elle n'est pas, peut pas être épanouissante. Mmh. Et
En rappelant après qu'effectivement, on reste, en tout cas dans les pratiques qu'on aborde ici dans ce podcast, en tout cas pour certaines pratiques, notamment les pratiques BDSM, qui restent, on l'a dit, des pratiques dangereuses. Effectivement, on peut établir un cadre qui se veut sécurisant. Ouais. Il faut tout de même, effectivement, rester vigilant et prévoir un cadre, on l'a dit tout à l'heure, les safe words, etc., pour éviter tous les dangers.
Pour finir, j'aimerais aussi qu'on se sente pas forcé, quoi. J'aimerais enfin, on a absolument le droit de pas être intéressé par les kinks ou par une sexualité moins conventionnelle, qu'on peut avoir une sexualité très classique et très épanouissante. Mmh. Enfin, voilà, j'aimerais qu'il y ait personne qui se sente stigmatisé, soit dans sa paraphilie légale, comme tu disais tout à l'heure, soit dans sa sexualité qui lui convient, en fait. Il n'y a, a pas de meilleure sexualité. Il y a la hiérarchie de la sexualité. Ta sexualité n'est pas plus fun parce que tu pratiques du shibari, que parce que toi, tu as une sexualité, je ne sais pas moi, très phallocentrée, mais pour un tas de raisons, et peut-être même culturelles, etc. Enfin, ça te convient, bah voilà. Vous vous sentez jamais obligé d'aller expérimenter des choses quand vous en avez pas envie. Il n'y a pas de la sexualité qui vous convient, ben c'est la bonne, quoi.
Je pense que c'est ça, ouais. La meilleure sexualité, c'est la sexualité qui nous correspond, en fait, et dans laquelle on est épanoui, comme on le disait tout à l'heure. Et pour rebondir sur ce que tu disais, du coup, juste avant, effectivement, la sexualité aussi, parfois, ça peut aussi être ne pas avoir de sexualité, et c'est OK de ne pas avoir de sexualité ou de ne pas avoir... d'attirance ou d'envie sexuelle, et donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, d'être une personne asexuelle.
Voilà, et ça existe aussi. Ce qui est difficile pour les personnes asexuelles, c'est que si la société n'était pas si jugeante, elle ne souffrirait pas de cette absence de désir sexuel, mais on leur fait remarquer qu'elles sont à la marge. Ouais. Et c'est ça qui est difficile en général. C'est pareil, enfin, en comparatif, je vais me dire, mais ça n'a rien à voir avec lui. Comme les femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui ne souffrent pas de ce non-désir d'enfants. Mais la société vient leur dire,
mais
écoute, meuf, t'es chelou, en fait. Enfin, et donc voilà, c'est pareil, les personnes asexuelles, mais laissez-les tranquilles, en fait. Vraiment, laissez-les tranquilles. N'essayez pas de rendre sexuelle une personne asexuelle. Enfin, voilà, si la sexualité qui lui convient, c'est de ne pas en avoir, tant mieux, enfin tant pis, tant mieux, j'en sais rien, de l'important c'est que les gens soient heureux et ils ne se sentent pas forcés, quoi. Il n'y a pas d'injonction à rien, en fait. Au plaisir un peu quand même, mais même pas à l'orgasme.
Mais sous toutes ses formes après, ça peut être manger du chocolat, aller au ciné, faire une balade ou voir une amie, enfin voilà, tout,
peu importe ce qui nous correspond. Mais oui, on peut prendre du plaisir dans plein de choses, donc, et puis il y a des moments, je crois que tout le monde passera par un moment de sa vie où il ne sera pas de question de sexualité.
Eh bien, du coup, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui, Edwige. Ça a été un vrai plaisir de te recevoir et de discuter donc déjà de tes bébés, de Wicu et Wicker. Et puis après, de parler aussi de pratiques sexuelles alternatives, de kinks ou de paraphilie légale. Voilà, on peut y mettre plein de... On peut donner à ces pratiques tout un tas de noms. Mais du coup, voilà, merci d'avoir partagé avec nous ton expérience de la soumission et aussi... tes envies avec le shibari. Voilà, on te souhaite du coup plein de bonnes choses pour les mois et les années à venir, que ce soit sur le plan professionnel que sur le plan personnel.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Encore un grand merci à Edwige pour sa participation. Ce fut un réel plaisir de la revoir et d'échanger avec elle sur ces sujets. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et je te dis à très bientôt. Si vous souhaitez découvrir le travail et les ateliers proposés par Edwige et Macha s'explique. Vous pouvez vous rendre sur ses comptes Instagram, Wiku et Wicker, ainsi que sur le compte Instagram donc, de Macha, Macha s'explique. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message, un vocal, un mail ou à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous souhaitez participer au podcast. Fétichissement vôtre, un homme curieux.